Grand Angle.
Vous êtes bien sur Radio Orient, l'heure de votre Grand Angle avec Marc-Aurèle Barrez. Cessez-le-feu accepté par les États-Unis et l'Iran, chacun revendique la victoire sur l'adversaire, se pose donc la question du rapport de force entre les deux pays, la question de l'ouverture du détroit d'Ormuz et tant d'autres, dont une perspective de paix. La porte de la diplomatie est ouverte, mais pour combien de temps et avec quels résultats? On en parle aujourd'hui avec Guillaume Ancel, ancien officier français, écrivain et spécialiste des questions géopolitiques. Bonjour Guillaume Ancel.
Bonjour.
Il y a un cessez-le-feu, chacun revendique la victoire aujourd'hui, mais à qui l'avantage du rapport de force?
Je dirais que l'avantage aujourd'hui, il est d'abord à la fin de la guerre. Parce qu'en fait, ce que ont annoncé les protagonistes, d'un côté la coalition américano-israélienne, et de l'autre côté, l'Iran, avec ses proxys, donc y compris le Hezbollah, bien sûr, au Liban, c'est le fait qu'il y avait un cessez-le-feu. Et je dirais, compte tenu de l'importance de cette opération, qui aura donc duré 40 jours hein, de la part de coalition, une opération de bombardement intense de l'Iran, on peut, sans prendre beaucoup de risques, dire qu'en fait, c'est la fin de la guerre. C'est la fin de la guerre des 40 jours. Maintenant, c'est l'ouverture effectivement à une période de négociation qui va probablement se dérouler pour l'essentiel au Pakistan, à Islamabad, où chacun va raconter qu'il a gagné, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'il trouve un accord. Attention, ce sera un accord de fin de guerre. La paix, c'est une autre affaire.
L'Iran a proposé un plan en 10 points aux Américains. Alors, contrôle du détroit d'Ormuz, retrait des sanctions, maintien de l'enrichissement, c'est ce que semble demander Téhéran. Est-ce que les États-Unis et l'Iran peuvent tomber d'accord à long terme sur ces sujets?
En fait, l'état des protagonistes est à peu près celui-ci aujourd'hui. D'un côté, l'Iran, dont le gouvernement aujourd'hui est une junte militaire, ce ne sont plus les mollahs, ce sont les gardiens de la révolution, est extrêmement affaibli. Et il va se retrouver en face d'une population très hostile, qui sera furieuse des dégâts et des destructions subies. Des milliers de morts hein, en Iran. Faible militairement, et faible aussi parce que de nombreuses infrastructures civiles ont été détruites ou abîmées. Et par conséquent, ce sera un régime extrêmement fragile face à une population extrêmement hostile. Je pense qu'il se passera des choses en Iran dans les mois à venir, mais ce ne sera plus le fait d'une guerre extérieure, ce sera le fait d'un règlement de compte intérieur. Du côté américano-israélien, plutôt je vais commencer par Donald Trump. Évidemment, il va crier victoire. De toute façon, même s'il avait perdu, il aurait crié victoire. Il est extrêmement soulagé d'avoir pu sortir de ce conflit qui avait été planifié pour 7 semaines. On était au milieu de la 6e semaine. Donc c'était très important pour lui de s'arrêter à temps parce qu'il arrivait au bout de ce qu'il pouvait faire et de ce qu'il pouvait supporter politiquement.
Qu'est-ce qui l'a poussé justement à réaliser ce cessez-le-feu?
Probablement en grande partie le fait qu'il fallait absolument qu'il reprenne pied dans la campagne électorale des mid-termes aux États-Unis. Et par conséquent, il fallait que cette guerre s'arrête avant qu'elle n'aille trop loin ou surtout trop longtemps. C'était un sujet de temps pour Donald Trump, plus que de moyens. Du côté israélien, la situation est beaucoup plus ambiguë puisque on pourrait espérer qu'avec ces négociations, Israël arrête son offensive contre le Hezbollah au Liban, puisque le Hezbollah, a priori, arrête de tirer sur Israël, mais se retire aussi du Liban, alors qu'il semble qu'Israël a bien l'intention de rester dans une partie du Liban, ainsi que de rester dans une partie de la Syrie, de rester à Gaza, et puis de continuer cette colonisation sauvage qui fait que même le chef d'état-major israélien a qualifié de terroriste le comportement des colons en Cisjordanie. Donc on voit bien que du côté israélien, je dirais, on peut toujours rêver, mais la situation est loin d'être réellement calmée dans son environnement immédiat. Pour ce qui est de la guerre entre les États-Unis et l'Iran, je pense qu'elle, elle est terminée. Reste la question du détroit d'Ormuz, mais en fait le détroit d'Ormuz, il est réouvert de fait, ou plutôt, c'est le golfe Persique qui est réouvert de fait, parce que les Iraniens n'ont jamais fermé le détroit d'Ormuz. Ils ont bloqué le trafic maritime sur l'ensemble du golfe Persique. Rien qu'avec les drones, aucune compagnie maritime ne pouvait prendre le risque de faire circuler un navire de commerce. Alors que là, à partir du moment où le conflit s'arrête, on n'a pas besoin d'escorte et de choses compliquées. Il y aura une circulation, je dirais comme précédemment, qui permet à 20% de la production d'énergie du monde de transiter par cette région. Donc elle va se rétablir naturellement. La question du nucléaire fera l'objet des négociations au Pakistan. Attention, la question est cruciale parce que on le voit bien, on a l'expérience de ces 20 dernières années, si les gardiens de la Révolution restent au pouvoir, de toute façon, ils essayeront de relancer ce programme pour obtenir une arme nucléaire qui, dans leur esprit, serait une garantie de survie et qui, dans l'esprit des Israéliens, serait une menace mortelle.
Et pour les États-Unis, c'est acceptable que les Iraniens maintiennent ce programme nucléaire ?
On fait bien le distinguo entre un programme d'électricité civile qui peut parfaitement être maintenu, c'est le cas de l'Afrique du Sud, par exemple, alors qu'elle avait la technologie pour faire une bombe nucléaire, et puis le fait que l'Iran, qui affiche vouloir détruire Israël, puisse acquérir une bombe nucléaire, même primitive. Par conséquent, les Américains seront obligés, dans la négociation, de trouver des garanties pour s'assurer ce qu'on n'a pas su faire ces deux dernières décennies, c'est-à-dire qu'aucun programme caché, camouflé, enterré, ne puisse reprendre.
La trêve est intervenue juste avant la fin du délai posé par Donald Trump avec son dernier ultimatum. Est-ce qu'on peut dire que cette stratégie qui lui est chère de l'ultimatum, elle fonctionne ?
En fait, Donald Trump est toujours dans l'outrance. On parlera des tromperies plus tard. Mais la réalité, c'est que la pression militaire sur le régime des gardiens de la Révolution était telle que, de toute façon, il fallait qu'il trouve une manière de suspendre cette guerre. Donc, les deux protagonistes avaient intérêt à ce qu'il y ait un arrêt de cette guerre. Alors, vous allez me dire, l'arrêt de la guerre, ce n'est pas un cessez-le-feu. Oui, mais ça commence par un cessez-le-feu. Et en fait, pour moi, sauf si une des parties voulait provoquer l'autre, ça pourrait être le cas de l'Iran, mais je ne vois pas très bien quel serait leur intérêt, cette guerre s'arrêtera. On assiste au processus normal de cessez-le-feu. Littéralement, on arrête de se tirer dessus. Violation du cessez-le-feu, il y en aura comme dans tous les cessez-le-feu. Mais à la fin, ce qui est important, c'est qu'il y ait un accord de fin de guerre. Encore une fois, il faut bien faire la différence avec la paix. Une fin de guerre n'est pas la paix pour autant. C'est-à-dire que la relation avec le régime des gardiens de la Révolution restera une relation extrêmement tendue et menaçante, même s'il y avait un accord.
En Israël, comment est-ce que ce cessez-le-feu est accueilli aujourd'hui, notamment du point de vue de l'armée israélienne et du gouvernement ?
Alors, d'abord, en Israël, Tsahal, l'armée israélienne, obéit strictement au pouvoir politique. Donc, c'est le pouvoir politique qui prendra les décisions et pas l'armée israélienne, heureusement. Le cabinet de Netanyahou affiche qu'ils ne se sentent pas liés par l'accord de cessez-le-feu sur ce qui se passe au Liban. La réalité, c'est que Donald Trump va rapidement rattraper son ami Benjamin Netanyahou pour lui dire « tu t'arrêtes ». On se souvient que pendant la guerre des 12 jours, Benjamin Netanyahou avait bien l'intention de continuer à bombarder Israël, l'Iran bien sûr, et que c'est Donald Trump qui lui avait dit « maintenant, ça s'arrête ». Et c'est exactement ce qui va se passer. Le point qu'on ignore encore, c'est est-ce qu'on arrivera à ramener à la raison Israël sur le Liban, et en particulier sur l'occupation du Sud-Liban, où on voit que les Israéliens se sont mis en tête qu'ils allaient faire un espèce de glacis sur 20 ou 30 kilomètres à partir de la frontière, ce qui là serait désespérant et totalement illégal.
Le Pakistan a joué le rôle de médiateur. Comment est-ce qu'il est parvenu à se rendre aussi important et comment est-ce qu'il a pu jouer un rôle dans le succès du cessez-le-feu ?
Alors, le Pakistan a joué un rôle crucial, mais n'a pas le monopole de la négociation, parce qu'en fait, les discussions entre Américains et Iraniens n'ont jamais cessé. Je pense que les Suisses, même s'ils affichent ne plus avoir le rôle diplomatique, ont continué, bien sûr, à discuter. Là où le Pakistan avait une position privilégiée, c'est qu'il a une bonne relation avec l'Iran. Et c'est très différent pour les envoyés spéciaux de Donald Trump, Steve Witkoff et son gendre Jared Kushner, qui sont très très proches, en plus de la faction la plus extrémiste du gouvernement israélien, et qui par conséquent étaient considérés par les gardiens de la Révolution comme une espèce de provocation permanente. Néanmoins, le Pakistan, puissance nucléaire, donc que personne ne va aller menacer, puissance régionale importante, qui en plus aimerait bien sortir de sa guerre avec l'Afghanistan, en rentrant dans ce jeu international, montre surtout le rôle qu'il aspire à jouer pour calmer cette escalade à laquelle on a assisté depuis des mois dans la région et qui fait que, oui, tout le Moyen-Orient est recomposé, mais je dirais que c'est moins une recomposition qu'un chaos et qu'un paysage de ruines dans beaucoup d'endroits.
Merci Guillaume Ancel.
Merci, à bientôt.
Je le rappelle, vous êtes ancien officier français, écrivain et spécialiste des questions géopolitiques. C'était votre grand angle, chers auditeurs. Merci pour votre fidélité et très bonne suite de programme sur Radio Orient.
C'était Grand Angle.